VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Raissa Girondin avec vous pour cette édition du Monde Aujourd'hui du mardi 2 janvier 2018. Voici les titres de l'actualité. Le président ougandais Yoweri Museveni a ratifié la loi supprimant la limite d'âge pour devenir président, ce qui lui ouvre la voie pour une nouvelle candidature en 2021. En RDC, combien y a-t-il de victimes de la répression des manifestations anti-Kabila du 31 décembre ? La question fait polémique à Kinshasa. Nouvelle vidéo du chef de Boko Haram qui revendique les dernières attaques du nord-est du Nigeria. Vague de protestations en Iran, au moins 21 personnes tuées et Donald Trump qui s'invite dans la crise en dénonçant un régime brutal et corrompu. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord, le journal. En République démocratique du Congo, retour au calme et rétablissement du réseau la nuit dernière, après 3 jours de coupure liées aux marches contre le régime Kabila. Cependant, une question reste posée ce soir. Quel est le nombre exact de victimes de la répression des manifestations de dimanche dans le pays ? Des éléments de réponse avec Solange Niamouliza.
Jonas Tchombela, un porte-parole des organisateurs, a déclaré qu'au total 12 personnes ont été tuées, 11 à Kinshasa et 1 à Kananga dans le centre du pays. Selon un communiqué du secrétariat général des Nations Unies, la violente répression de ces marches a occasionné la mort d'au moins 5 personnes, plusieurs blessés et l'arrestation de plus de 120 personnes. Ce bilan revoit à la baisse un premier bilan de 8 morts donné dimanche par des sources onusiennes à Kinshasa. Selon le communiqué de la police, aucun mort n'a été enregistré en marge de ces marches. Dimanche, le porte-parole de la police avait indiqué que 3 civils, des pillards et des bandits, et non des manifestants, avaient trouvé la mort non loin des lieux de manifestation. De son côté, le gouvernement fait état d'un policier tué le même jour dans l'attaque d'un commissariat de police. Dimanche, des marches de catholiques exigeant l'application d'un accord de sortie de crise, signé le 31 décembre 2016 entre la majorité et l'opposition sous l'égide des évêques catholiques, ont été réprimées par les forces de sécurité.
Et le cardinal Laurent Monsengwo Passigna a qualifié de barbarie la répression par les forces de sécurité de la marche pacifique et non violente des catholiques contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Nous y reviendrons dans la partie magazine. Toujours en RDC, 3 présumés miliciens Kamuina Nsapu ont été tués dans des combats avec des militaires près de l'aéroport de Kananga dans le Kasaï. Des tirs d'armes lourdes et légères ont été entendus près de l'aéroport qui a d'ailleurs été fermé selon l'AFP. Au Nigeria, Abubakar Shekau refait parler de lui. Dans une vidéo, le chef historique du groupe Boko Haram a revendiqué les dernières attaques commises dans le nord-est du pays. Plus de détails avec vous, Bagassi Koura.
C'est la première vidéo depuis le mois d'août d'Abubakar Shekau s'exprimant en arabe, puis en langue haoussa. Il a déclaré, je cite, « Nous sommes en bonne santé et rien ne nous est arrivé ». Le leader du groupe qui continue de semer le chaos dans toute la région du lac Tchad reconnaît avoir mené les attaques sur Maïdougouri, à Gambori et à Damboa. Nous revendiquons toutes ces attaques, a-t-il ajouté. Les attentats suicides, les raids sur les villages, les villes et les postes militaires se sont multipliés ces 2 derniers mois. Toutefois, malgré une évidente résurgence des violences, Shekau, habillé d'une longue tunique blanche et d'un kéfia noir et blanc, apparaît fébrile et peine à lire ses notes. Le conflit qui a éclaté en 2009 après la mort du fondateur de Boko Haram, Mohamed Youssouf, a fait plus de 20 000 morts, plus de 2 millions de déplacés. Le nord-est du Nigeria fait face à une très grave crise humanitaire et alimentaire.
Et au moins 14 personnes qui revenaient d'une messe de minuit célébrée à Port Harcourt dans le sud du Nigeria ont été tuées par des hommes armés. La fusillade a eu lieu dans la ville d'Omoku, grand centre pétrolier et capitale de l'état de Rivers. Au Cameroun, Moussa Ramat, l'ex-maire de Fotokol, ville du nord du pays, n'a toujours pas pas été libéré selon son avocat. Moussa Ramat a été interpellé en septembre 2014 pour des soupçons de complicité avec le groupe djihadiste nigérian Boko Haram et a été acquitté le 28 décembre. L'ancien maire de Fotokol était accusé d'avoir fourni des armes à Boko Haram et aidé à la commercialisation du produit des pillages des combattants du groupe djihadiste qui attaquent fréquemment des localités du nord du Cameroun. Plus de limitation d'âge pour être candidat à la présidentielle en Ouganda. Yoweri Museveni a ratifié la loi supprimant la limite d'âge pour accéder à la magistrature suprême. Les détails avec Yakuba Ouedraogo.
Cette réforme constitutionnelle controversée qui supprime l'âge limite fixé auparavant à 75 ans pour être élu président a été adoptée le 20 décembre par le Parlement dominé par le parti au pouvoir. Le texte réintroduit par contre une limite au nombre de mandats présidentiels qui avait été supprimée en 2005. Ce qui pourrait permettre à M. Museveni, 75 ans et au pouvoir depuis 1986, d'être à nouveau candidat. C'est un plan bien orchestré pour avoir Museveni au pouvoir à vie, a réagi le chef de l'opposition Kizza Besigye. Cette loi prévoit également que le mandat des députés soit allongé de 2 ans, passant de 5 à 7 années désormais. En 2005, la Constitution avait été modifiée pour supprimer la limitation à 2 mandats présidentiels, permettant alors à Yoweri Museveni de briguer ses 3e, 4e et 5e mandats.
5 personnes ont été exécutées par pendaison en Égypte. 4 des détenus exécutés aujourd'hui ont été condamnés par un tribunal militaire pour un attentat à la bombe en 2015 dans un stade au nord du Caire qui avait coûté la vie à 3 élèves officiers. Le 5e détenu a été condamné dans une affaire criminelle de droit commun, ont indiqué les sources sans autre précision. En Afrique du Sud, un grimpeur japonais et son guide sont morts lors du Nouvel An en descendant les pentes de la montagne de la Table qui surplombe la ville du Cap. L'épouse du touriste a, elle, été secourue et transportée à l'hôpital selon les médias sud-africains. Des centaines de touristes se sont retrouvés bloqués plusieurs heures au sommet pendant les opérations de secours durant le jour de l'An.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump estime que les sanctions imposées à la Corée du Nord commencent à avoir un impact, mettant en avant l'ouverture de son leader Kim Jong-un en direction de Séoul. L'homme fusé veut maintenant parler à la Corée du Sud pour la première fois. Peut-être que c'est une bonne nouvelle, peut-être pas, nous verrons. C'est ce qu'a indiqué le président Trump. En parallèle, Séoul a proposé de tenir des discussions de haut niveau avec Pyongyang le 9 janvier, saisissant la main tendue par Kim Jong-un qui a appelé à des relations meilleures et évoqué une participation aux Jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud. Et le président américain Donald Trump a dénoncé le régime brutal et corrompu au pouvoir en Iran au 6e jour d'un mouvement de contestation marqué par des violences. Nathalie Barge.
Les Iraniens agissent enfin contre le régime brutal et corrompu, a lancé Donald Trump dans un tweet matinal. Lundi, il avait estimé que le temps du changement était venu dans ce pays dont il dénonce régulièrement le comportement depuis son arrivée au pouvoir. 21 personnes ont été tuées depuis le début des rassemblements en Iran contre les difficultés économiques et le pouvoir. Dénonçant une nouvelle fois l'accord conclu en 2015 par Barack Obama avec Téhéran sur son programme nucléaire, M. Trump a estimé que l'ex-président avait bêtement donné, selon ses termes, au régime des fonds qui sont allés au terrorisme et dans leur poche, a-t-il dit. L'ayatollah Ali Khamenei est sorti de son silence ce mardi pour accuser les ennemis de l'Iran de s'unir pour porter atteinte au régime.
Et la France exprime sa préoccupation face au nombre important de victimes et des arrestations en Iran. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères assure que les autorités françaises suivent avec attention la situation en Iran. Le droit de manifester librement est un droit fondamental. Il en va de même de la libre circulation de l'information. Le Parlement israélien a adopté un projet de loi visant à compliquer le passage sous souveraineté palestinienne de certaines zones de Jérusalem dans le cadre d'un futur accord de paix. Le texte, approuvé à 64 voix contre 51, éloigne davantage les espoirs d'une solution à deux États dans le conflit israélo-palestinien. L'adoption de cette loi intervient quelques jours après le vote du comité central du Likoud, le parti du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, d'une résolution demandant à ses parlementaires de pousser en faveur de l'annexion des colonies de Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 50 ans. Le chef d'un mouvement néo-nazi, Simon Lindbergh, a été condamné aujourd'hui à un mois de prison avec sursis par un tribunal de Stockholm pour incitation à la haine raciale après un discours prononcé lors d'une manifestation dans la capitale suédoise en novembre 2016. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Arzuma Compaoré.
En RDC, après trois jours d'interruption décidée par le gouvernement à la veille des marches contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila, l'Internet a été finalement rétabli dans la nuit de lundi à mardi. Vendredi, le ministre congolais des Postes, Téléphones et Télécommunications, Emery Okundji, avait instruit les opérateurs de téléphones mobiles de couper l'Internet et le système de SMS pour des raisons de sécurité d'État à partir de samedi à 18h. Les coupures d'Internet sont courantes en RDC lors des manifestations contre le pouvoir. Mise en circulation de nouveaux billets de la monnaie nationale en Mauritanie, l'ouguiya. Depuis le 1er janvier 2018, 10 ouguiyas deviennent un ouguiya. Dans les rues, les personnes déjà servies examinaient les nouveaux billets fabriqués en polymère, les tournant et les retournant, contemplant leurs couleurs vives et testant leur solidité tant vantée par la banque centrale. Les ouguiyas neufs étaient disponibles dès minuit dans certains distributeurs automatiques. Les anciens billets et pièces seront retirés selon un calendrier établi par la BCM, en commençant par les plus gros, comme les billets de 5 000, soit 11,76 € d'ici le 31 janvier, ceux de 2 000 et 1 000, respectivement un et deux mois plus tard, les plus petites coupures d'ici juin. En 2004, la Mauritanie avait remplacé tous les billets en circulation depuis 1974. Le fondateur du groupe Econet, Strive Masiwiya, qualifié d'homme le plus riche de Zimbabwe, plus de 600 millions de dollars en 2016 selon Forbes, est en discussion avec l'opérateur établi au Luxembourg, Millicom, pour l'achat de ses filiales en Tanzanie, au Rwanda et au Tchad.
Et c'est notre page sport avec Yakuba Ouedraogo. Bonsoir.
Bonsoir Aïssa et bonsoir à tous.
Alors le mercato d'hiver est lancé depuis hier et déjà un premier dossier chaud.
Tout à fait, Raïssa, c'est celui de Philippe Coutinho. Selon le journal catalan Mundo Deportivo, les dirigeants barcelonais auraient formulé une offre de 150 millions d'euros, dont 40 de bonus, pour attirer l'international brésilien. Ils le convoitaient déjà depuis l'été dernier. Le Barça avait alors proposé 100 millions d'euros, jugé trop peu par Liverpool, qui demandait 200 millions.
Lille a rejeté une offre de Bordeaux pour Amadou.
Les Girondins ont proposé 10 millions d'euros pour le capitaine lillois Ibrahim Amadou. Raïssa, ce n'est pas vous quand je parle des Girondins. Une offre déclinée par le LOSC qui attend autour de 20 millions d'euros en provenance du marché anglais. Il n'est pas sûr que les Nordistes conservent leur capitaine en janvier.
En Angleterre, Arsène Wenger a rappelé son intention de voir ses cadres rester.
L'entraîneur d'Arsenal a réitéré son souhait de voir Alexis Sanchez, Mesut Özil et Jack Wilshere prolonger leur contrat. Arsène Wenger a aussi affirmé qu'aucun joueur de son effectif n'a été contacté pour le moment. Le technicien français a également évacué toute idée d'un possible recrutement de David Luiz en partance de Chelsea et dont certaines rumeurs l'annonçaient à Arsenal.
Et Neymar remporte le Samba d'or en 2017.
C'est un titre qui récompense le meilleur joueur brésilien de l'année écoulée, décerné par le site SambaFoot. L'attaquant transféré durant l'été du Barça au PSG a recueilli un peu plus de 27% des suffrages. Il a devancé le vainqueur en 2016, Philippe Coutinho, ainsi que Marcelo du Real Madrid. C'est la troisième fois que Neymar remporte ce trophée après 2014 et 2015.
Et on a appris aujourd'hui une triste nouvelle, le Gabonais Régis Manon est décédé.
Et oui, Raïssa, l'annonce a été faite par la Fédération Gabonaise de football qui a précisé que c'est à la suite d'une longue maladie. Ancien international, le milieu de terrain avait disputé la Coupe d'Afrique des Nations en 1994. Régis Manon a aussi évolué à Tours en France de 1983 à 1990 avant de rentrer, finir sa carrière dans son pays et d'y débuter une reconversion en tant qu'entraîneur. Et il était âgé de 52 ans.
Merci Yacouba Ouédraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. En RDC, l'heure est aux comptes et aux appels après la marche des catholiques réprimée dimanche dans le pays. Le Vatican, les Nations Unies et la francophonie sont parmi ceux qui dénonce la violence utilisée dans certains cas dans des églises. Pour une analyse, Eddy Isango a joint à Kinshasa l'éditeur de La Prospérité, journal indépendant paraissant dans la capitale congolaise, Marcel Ngoï.
C'est vrai que du côté officiel, on parle de 4 morts. Et du côté des organisateurs de la manifestation, on parle de plus de 10. Ce qui est important, c'est le message. Est-ce que, de part et d'autre, on a saisi le sens profond du message transmis à travers toutes ces manifestations? À mon avis, je ne pense pas. Parce que si vous suivez très bien le discours du président Kabila, vous rendrez à l'évidence. Il considère tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont appelé à ces manifestations comme des fossoyeurs du processus électoral. Et de l'autre côté, la méfiance s'est installée à tel point que, du côté du rassemblement, on considère que depuis le 31 décembre à minuit, c'est fini l'ère du règne du président Kabila. Pour les leaders du rassemblement, on entre dans une sorte de perte de légitimité et de légalité. Donc, si vous voyez bien ce tableau-là, d'un côté, le président Kabila qui fonce et qui estime qu'il détient le pouvoir et il va continuer à diriger, et de l'autre, vous avez ceux qui le contestent, et donc vous comprenez qu'il y a rupture du consensus qui avait été scellé le 31 décembre 2016 au 131 de Césaire sous la barre des évêques. Et dans un tel climat, il est difficile d'espérer qu'un jour on organiserait des élections apaisées et que le transfert pacifique et démocratique du pouvoir pourrait se faire. Et en même temps, il faut considérer que l'accord scellé est un accord qui pose maintenant problème parce que l'accord lui-même est devenu un accord caduque.
Voulez-vous dire que les pouvoirs continueraient à entretenir ces climats pour que finalement il n'y ait pas d'élection?
Je ne pense pas que ça soit forcément l'objet d'une orientation politique à déclarer à haute voix. Mais tout compte fait, ce qu'il faut retenir est que s'il y a un nouveau gap dans l'organisation, un quelconque retard dans l'organisation des élections, ça pourrait profiter naturellement au pouvoir en place. Et le fait pour l'Église d'intégrer ce type de combat avec les laïcs catholiques peut aussi changer la donne.
Vous avez parlé d'Église, mais les évangélistes et les protestants sont restés à l'écart de ces manifestations. Ne pensez-vous que les politiques ont réussi à diviser l'Église en RDC?
Ils ont exprimé un avis contraire contre la marche, mais ils ne disent pas de contraire pour les biens du Congo, pour les biens des Congolais. Peut-être la façon d'exprimer les ras-le-bol qui étaient exprimés, c'est possible qu'il y ait une divergence de vue, mais le contenu du message, en ce qui concerne les élections, en ce qui concerne l'organisation du changement, cette organisation-là, je ne pense pas qu'il y ait une divergence fondamentale.
Stupeur et indignation depuis jeudi à Bamako à la suite du décès d'une standardiste de la présidence du Mali. Fanta Sekou, 27 ans, a été agressée sur son lieu de travail par son mari. Aussitôt, les jeunes Maliens ont relayé l'information sur les réseaux sociaux et depuis, les associations et ONG de lutte contre les violences féminines montent au créneau. Ekia Abadou a joint à Bamako Rokiatou Diakité, conseillère conjugale.
Non, je vois plus sur les réseaux sociaux, comme j'ai des connaissances là où elle travaille, donc je me suis renseignée pour être sûr que c'est la vérité, que ce n'est pas encore de fausses informations. Quand j'ai eu la confirmation, j'ai été indignée comme tout le monde.
Alors vous avez été indignée comme tout le monde. De nombreuses associations et ONG de lutte contre les violences féminines et conjugales se sont insurgées. Quelle est votre réaction à la suite de cet assassinat?
Le système que nous avons ici au Mali, dans le cadre de la préservation du mariage, est un peu trop poussé par rapport au contexte actuelle, l'évolution des choses. Il y a beaucoup de pression pour que tu restes dans ton mariage, quel en soit le plus. Les gens ne cherchent pas à savoir comment ça se passe. On te demande toujours de supporter. Ça va passer. Le mariage, il faut que maintenant qu'on sache que ce n'est pas une obligation.
Alors le mariage n'est pas une obligation, vous dites. Que faire dès lors qu'on sent des signes d'agression envers une femme? Qu'est-ce que les familles, qu'est-ce que les témoins peuvent faire?
Il y a une responsabilité vraiment de la société. Tout le monde est au courant, mais tout le monde est silencieux. Et quand tu en parles, on ne prend pas de mesures vraiment concrètes pour que ça puisse suffire. On veut toujours réconcilier à l'amiable, on veut toujours réconcilier entre familles et les coups continuent. Il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de décisions vraiment concrètes pour vraiment dissuader les hommes, pour que cette situation puisse être vraiment bannie, quoi. Vraiment, je crois que ça va être difficile de mettre fin à ça.
Le fait que cette histoire ait été médiatisée, est-ce que vous pensez que ça va aider à faire changer les choses?
Énormément. Ça arrive très, très souvent. Mais comme la situation, c'est dans les zones reculées, c'est au niveau des personnes qui n'ont pas vraiment les moyens. Donc, ça reste comme ça. Ça, c'est un grand point pour les femmes et un grand point contre la violence sur les femmes. Parce que ça permet aux uns aux autres de savoir que ce n'est pas une légende, ce n'est pas un conte, ce n'est pas parce que les femmes veulent prendre la place des hommes, ce n'est pas une lutte contre l'égalité. C'est un fait réel qui est là, un abus de pouvoir, un abus de force dont les femmes sont victimes.
C'était Rokiatou Diakité, conseillère conjugale à Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
En Mauritanie, le nouvel ougia, la monnaie nationale, est en circulation depuis hier avec l'émission de nouveaux billets. Désormais, 10 ougia deviennent 1 ougia. Les banques étaient ouvertes hier, jour férié, pour permettre aux populations d'échanger leurs anciens billets contre de nouveaux. Mais la transition a été timide. On écoute les explications du rédacteur en chef du journal Al-Akhbar, Mohamed Diop.
On peut résumer aujourd'hui que méfiance, scepticisme, hésitation, c'est ce qu'on a un peu constaté chez les Mauritaniens aujourd'hui. Je me suis rendu dans un restaurant aujourd'hui. La gérante même d'ailleurs refusait de prendre la nouvelle monnaie, donc le client était obligé de payer en ancienne monnaie. Et d'autres même qui prennent ça hésitent parce que chaque fois, ils ont un peu un problème de conversion entre l'ancienne et la nouvelle monnaie. Parce que l'ancienne et la nouvelle, les deux circulent, doivent circuler pendant 6 mois, c'est-à-dire jusqu'au mois de juin. Et ça a déjà un impact sur l'ouvrier parce que déjà, les gens ont tendance à convertir l'argent en devises étrangères. Et ça a un peu fait que l'euro, les devises étrangères, prennent un peu plus de valeur par rapport à l'ouvrier.
Comment explique-t-on cette méfiance auprès des populations? Est-ce qu'il n'y a pas eu assez de communication autour de cette transition?
Alors, il y a une sensibilisation. Déjà, la Banque centrale de Mauritanie a mis en place un centre d'appel. Il y a également des affiches dans les lieux de grande fréquentation pour un peu sensibiliser les gens. Mais comme vous savez, c'est qu'il y a un changement de base. Chaque nouveau billet, il y a un zéro de moins. Ça veut dire que s'il y a 1000, ça devient 100 ou 100, mais avec la même valeur. Les gens ont du mal à un peu faire cette conversion, surtout en cette première journée en tout cas.
Est-ce qu'il y avait de l'affluence devant les banques ce lundi?
Alors, il n'y a pas assez d'affluence devant les banques aujourd'hui parce que c'est un jour férié, c'est le premier jour de l'an. Mais normalement, dans la semaine, il doit y avoir de l'influence.
Quelles peuvent être les implications avec cette nouvelle monnaie?
C'est qu'il y a les perspectives gazières, pétrolières et minières prometteuses qui vont donc générer des enquêtes substantielles en devises qui auront pour contrepartie des émissions en ougia importantes à injecter dans une économie liquide où le cash est déjà prédominant. Par conséquent, pour gérer, tracer et sécuriser cette liquidité de manière efficace et efficiente, la mise en place d'un coût de monnaie et système de paiement approprié devient nécessaire impérieuse pour les gouvernements. Et il y a également une part de sécuriser l'ouvrier pour encore lutter contre le blanchiment et éviter la quantité de monnaie en circulation.
C'était Mohamed Diop, le rédacteur en chef du journal Al-Akhbar à Nouakchott.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Plus de 800 000 personnes dans le monde meurent chaque année de l'eau insalubre, selon une estimation de l'Organisation mondiale de la santé. Mais des chercheurs du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, aux États-Unis, ont mis au point un dispositif simple et peu coûteux pour traiter de l'eau contaminée, comme l'explique Kevin Enoch de la VOA dans ce reportage relaté par Jacques Aristide.
Le canal de Gowanus à Brooklyn dans l'état de New York est considéré comme l'un des plus pollués du monde. C'est un mélange toxique de polluants qui se déverse dans ce canal, vieux de plus de 150 ans, métaux lourds, pesticides et eaux usées. Mais des scientifiques du MIT de Boston planchent sur le traitement de cette eau, tout simplement en ayant recours aux conduites électriques. Xiao Su est chercheur au MIT.
En rouge, c'est l'électrode positive et en vert, l'électrode négative. Dans le noyau cellulaire, nous voyons les particules polluantes. Nos électrodes entrent en contact avec l'eau et en absorbent les polluants, ce qui entraîne le bahut magnétique à agiter.
Mais ce n'est pas aussi simple que cela en a l'air. Les électrodes sont recouvertes de polymères spéciaux qui ciblent chaque polluant et c'est cela qui rend ce procédé si unique. Alain Aton du même institut.
Bien qu'il y ait de nombreux types de dispositifs de séparation basés sur les forces motrices de l'électricité, ils n'ont pas les caractéristiques dont nous avons besoin, car incapables d'absorber les micropolluants à très faible concentration. Donc, notre idée était de pouvoir couvrir les électrodes des polymères et de les recharger afin qu'elles soient capables, par exemple, d'extraire une molécule spécifique d'un contaminant organique à partir des centaines d'autres molécules. Si nous pouvons le faire de manière sélective, ça sera les gros lots. C'est ce que nous avons mis au point.
Non seulement l'eau est propre, mais le dispositif lui-même est plus écologique que les méthodes de traitement actuelles qui utilisent la chaleur, la haute pression ou même des produits chimiques. Alain Aton, à nouveau.
Et ce que nous aimerions faire, c'est avoir une technologie qui permettrait de basculer l'interrupteur, qui permettrait à son tour d'extirper les polluants et de régénérer les systèmes.
Les chercheurs croient que ce dispositif de traitement d'eau peut vite aller au-delà des tests de laboratoire pour être utilisé dans la vie de tous les jours.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Ainsi va le monde aujourd'hui, à la mise en onde de Lionel Gaïmard, à la console Bill Barber, à la présentation Raissa Girondin. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voaafrique.com. Excellente suite de programme. Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin. Et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.